France Inter.
France Inter, il est 13h. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'Europe face au retrait des États-Unis, la décision la nuit dernière de Donald Trump de suspendre son aide militaire à l'Ukraine est un séisme pour les pays du continent et l'Union européenne tente de réagir. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Annonce d'un plan exceptionnel de réarmement ce matin.
Un plan à 800 milliards d'euros pour encourager les États membres à augmenter leurs dépenses militaires.
A tout de suite pour vos précisions. Nous nous demanderons si ce sera suffisant face à la Russie ou si l'Ukraine a perdu la guerre la nuit dernière. Et puis à partir de 13h30, les liens Trump-Poutine, décryptés par le journaliste Régis Janté, qui dans son dernier livre avait anticipé ce qui est en train de s'écrire. Il est notre invité. 01 45 24 7000 pour vos questions. À suivre encore, la mort de Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, figure de la droite, chiracien parmi les chiraciens, hommage unanime ce matin à l'Assemblée nationale. Nous y serons. Un procès pour le policier auteur du tir mortel sur le jeune Naël, c'était à Nanterre en 2023. Et puis la prise de parole très attendue des frères de Bétaram. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Ils reconnaissent leur responsabilité dans les agressions.
Oui, et annoncent des mesures, une réparation mémorielle, des réparations financières, y compris pour les victimes de laïcs, et la mise en place d'une commission d'enquête indépendante.
Et nous verrons avec vous ce qu'est précisément cette congrégation. À tout de suite. Nous parlerons aussi de Canal+, qui reste partenaire et financeur du cinéma français, et de votre déguisement aujourd'hui. Et oui, c'est Mardi Gras, 13h50. C'est la France, en festival, au café, au cinéma, l'étonnant succès du tricot. Ce sera avec Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson et un standard cubain, Dos Gardenias para ti. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
L'Europe peut-elle seule prendre le relais des États-Unis pour soutenir l'Ukraine contre la Russie, autrement dit, combler le vide, comme le dit ce matin l'Estonie, pays balte qui a eu à subir en son temps l'occupation russe. Jusqu'ici, cette question était théorique. Depuis l'annonce par Trump de la suspension de l'aide des États-Unis, elle est réelle, d'où le plan de réarmement dévoilé avec 2 jours d'avance ce matin par la présidente de la Commission européenne. On va y venir dans quelques minutes. Mais pour comprendre ce plan, il faut d'abord mesurer l'ampleur du choc sur le continent, même si le président américain, c'est vrai, n'avait pas caché ses intentions. Choc ressenti par l'ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle 2027, Édouard Philippe, ce matin sur Inter.
Abandonner un pays qu'on soutient, qui est agressé. Imaginez travestir la vérité au point de dire que la guerre serait le fait de l'Ukraine. Évidemment, c'est une trahison. Alors c'est les États-Unis, ils sont souverains, ils prennent des décisions conformes à l'intérêt. Je ne remets pas ça en cause, mais de mon point de vue, cette décision est une trahison. Je pense néanmoins que Trump, en faisant cette concession d'emblée à Moscou, que la partie souveraine de l'Ukraine, ou qu'une partie de l'Ukraine ne pourrait pas rentrer dans l'OTAN, a abandonné une carte majeure. C'est aussi pour ça que je parle de trahison.
Édouard Philippe ce matin avec Nicolas Demorand et Léa Salamé. Les Polonais en première ligne dans l'aide à l'Ukraine ne disent pas autre chose. Varsovie parle ce matin de situation très grave quand Emmanuel Macron lui réunit en ce moment à l'Elysée une partie du gouvernement. Avant d'aller plus avant sur le plan des Européens, arrêtons-nous sur cette décision, cette pause pour reprendre le mot des Américains cette nuit. Pause, dit la Maison-Blanche, le temps de réexaminer l'aide pour s'assurer qu'elle contribue à la recherche d'une solution. Fin de citation. Bonjour Frédéric Seix.
Bonjour Jérôme.
Rédaction internationale de Radio France. Quelle aide se retrouve gelée précisément?
Alors, deux mécanismes d'aide américaine sont concernés. D'abord, un programme de dons de matériel militaire puisé dans les stocks de l'armée américaine. C'est le programme PDA. Le dernier volet, décidé sous l'administration Biden en décembre dernier, prévoyait le transfert de systèmes de défense antiaérienne, d'obus, de missiles anti-chars et puis d'armes légères et de munitions. Deuxième mécanisme gelé, l'initiative d'assistance à l'Ukraine. Cette fois, ce ne sont pas des dons de matériel, c'est une enveloppe financière pour permettre aux autorités ukrainiennes d'acheter des équipements militaires auprès d'entreprises américaines. On ne connaît pas le détail de ces achats, si ce n'est qu'une large part est là aussi consacrée aux munitions, missiles et obus. En tout, ce gel de l'aide décidé par Donald Trump représente 1 milliard de dollars selon le New York Times. À ce stade, la Maison-Blanche n'a pas indiqué si cette suspension s'appliquait aussi aux partenaires partage de renseignements militaires ni à l'utilisation du réseau de satellites Starlink essentiel pour les Ukrainiens. De quoi faire planer un moyen de pression supplémentaire sur Volodymyr Zelensky.
Alors d'un point de vue militaire, combien de temps Kiev peut-il tenir sans cette aide ? L'Ukraine a-t-elle la nuit dernière perdu la guerre? Vous avez posé la question, Frédéric, à Florian Louis. Il est historien des relations internationales et membre de la revue Le Grand Continent.
À court terme, il faut voir qu'il y a d'abord et avant tout peut-être un impact psychologique à la fois sur les combattants ukrainiens, sur la société ukrainienne en général, sur les Européens qui soutiennent les Ukrainiens, et puis aussi en face sur les Russes, sur la société russe, sur les dirigeants russes. Le simple fait d'une telle annonce, c'est de fait galvaniser les uns et sans doute, même si ils essaieront de surmonter cela du côté ukrainien, les affaiblir. À moyen terme, évidemment, c'est très problématique puisque ça veut dire effectivement qu'un certain nombre d'armes ne vont plus arriver, mais si ce n'était que ça, ça pourrait peut-être et encore être compensé par les Européens ou d'autres alliés de l'Ukraine. Le problème, évidemment, c'est que si on arrête toute aide, ça veut dire aussi et surtout qu'on arrête de fournir du renseignement, qu'on arrête de fournir de la formation, du service après-vente, si j'ose dire, de l'entretien d'un certain nombre de technologies. Et donc, très rapidement, parce qu'évidemment, à la guerre, le matériel s'use très vite, très rapidement, ça peut bloquer un grand nombre d'actions des troupes ukrainiennes.
Voilà donc la situation que les Européens ont face à eux, une aide suspendue et des Russes qui s'en réjouissent. La suspension de l'aide militaire américaine à Kiev est la meilleure contribution possible pour obtenir la paix, explique ce matin Moscou. Alors la présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, accélère et a présenté dès ce matin son plan de réarmement annoncé dimanche, 800 milliards d'euros.
La question n'est plus de savoir si la sécurité de l'Europe est menacée ou si l'Europe doit faire davantage pour garantir sa sécurité. Cela fait longtemps, en vérité, que nous connaissons les réponses à ces questions. La vraie question, c'est de savoir si l'Europe est prête à agir de manière aussi décisive, rapide et ambitieuse que la situation l'exige. Oui, l'Europe est prête à prendre ses responsabilités. Le plan Réarmer l'Europe pourrait mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros de dépenses consacrées à la défense au profit d'une Europe sûre et résiliente. Nous continuerons évidemment à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires de l'OTAN. Le temps de l'Europe est venu, nous sommes prêts à y faire face.
La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Fabien Cazot, on vous retrouve en direct de Bruxelles, où vous êtes notre correspondant. Un mot de la somme, d'abord Fabien, jusqu'à 800 milliards d'euros. Il y a un an, les plus ambitieux des Européens parlaient d'un plan de 100 milliards. Là, c'est 8 fois plus.
Oui, alors ces 800 milliards se décomposent en fait en deux parties. La première partie, la plus concrète, disons, porte sur 150 milliards d'euros. Il s'agit de prêts européens qui seront destinés aux États membres dans le cadre de leurs dépenses d'armement. Ursula von der Leyen a cité ce matin les commandes de missiles, d'artillerie, de drones et de dispositifs de défense anti-drone. Et puis il y a l'autre volet, 650 milliards, qui correspond en fait à des investissements que les États membres pourraient faire sans être sous la pression des procédures de déficit excessif, vous savez, celle qui vise les États membres, dont la France d'ailleurs, quand leurs finances publiques dérapent, eh bien, pour ceux qui augmenteront leurs dépenses militaires d'au moins 1,5 point de leur richesse nationale dans les prochaines années, elles n'entreront pas dans le calcul des déficits.
Et à quoi va servir cet argent? Est-ce que ce sera pour aider l'Ukraine dans l'urgence à la place des Américains ou pour préparer une défense européenne autonome pour plus tard?
Les deux, Jérôme. L'aide à l'Ukraine à court terme, la défense européenne à moyen terme. Les deux sujets sont intimement liés, vu de Bruxelles. L'Union européenne tient à répondre présente face aux défis que représente le désengagement américain annoncé hier soir par Donald Trump en Ukraine. Une manière aussi de répondre à la pression qu'il met sur ses partenaires au sein de l'OTAN pour qu'ils augmentent leurs dépenses militaires. Une équation sécuritaire, mais aussi économique, qui devrait s'imposer durablement au sommet des préoccupations européennes.
Et les dirigeants des 27 pays de l'Union examineront cette proposition jeudi lors d'un sommet spécial consacré aux dépenses de défense. Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles. Autre changement majeur de la nuit dernière, la guerre commerciale déclarée par Trump à la Chine avec des droits de douane portés à 20% contre 10 jusqu'ici. Même chose pour ses voisins canadiens et mexicains. Leurs importations vers les États-Unis seront désormais taxées à hauteur de 25%. Chine et Canada ont déjà annoncé une réplique sur certains produits américains. Alors les consommateurs européens et français doivent-ils eux aussi s'inquiéter d'un retour de l'inflation? Sébastien Jean, professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers, ne le croit pas.
Ce qui pourrait affecter les prix au sein de l'Union européenne, ce seraient les mesures de représailles européenne qui taxerait les importations en provenance des États-Unis. Les États-Unis sont pas un partenaire si majeur dans les importations de biens de consommation notamment, d'autant qu'on va essayer de cibler ces représailles de manière à éviter un coût pour les consommateurs trop élevé. La principale menace, elle est sur les industriels. Les entreprises directement concernées en France, ce sont l'aéronautique, la pharmacie, le luxe, l'agroalimentaire et en particulier les boissons, les vins et les alcools. Les entreprises, elles vont essayer de faire le dos rond, de trouver d'autres débouchés, essayer aussi de faire en sorte d'obtenir des exemptions. Ensuite, si ces droits de douane sont durables, il faudra essayer de s'adapter en diversifiant ces marchés, s'adapter en se posant des questions de stratégie industrielle aussi. La circonstance actuelle n'incite pas dans l'immédiat à prendre des décisions d'investissement.
Sébastien Jean au téléphone de Louise Buyen. Et d'autres annonces pourraient suivre aux États-Unis puisque Donald Trump prononcera la nuit prochaine son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès américain. On reparle de ce rapprochement entre Américains et Russes à partir de 13h30 avec notre invité, le journaliste Régis Jeantet, 01 45 24 7000 pour vos questions. À l'étranger, toujours Israël qui exige ce matin la démilitarisation totale de la bande de Gaza pour passer à la phase 2 de la trêve. Le Hamas et le djihad islamique dehors et rendez-nous nos otages, précise le ministre israélien des Affaires étrangères israélien pour qui l'aide humanitaire aux Gazaouis est devenue la première source de revenus du Hamas, l'aide humanitaire bloquée par Israël depuis dimanche. Et puis l'inquiétude est toujours aussi forte pour le pape François, 88 ans. Après ses deux épisodes de crise respiratoire sévère, hier, il a dormi toute la nuit. Il respire désormais sans masque, nous dit le Vatican, le pape hospitalisé depuis le 14 février. Et puis on a donc appris ce matin la mort à l'âge de 80 ans de l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président également du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, fils de Michel Debré, fidèle du général de Gaulle et rédacteur de la Constitution de la Ve République. Il fut, lui, un compagnon de route de Jacques Chirac, l'un des seuls à ne pas l'abandonner dans sa traversée du désert avant la présidentielle 95. Il fut ensuite son ministre de l'Intérieur. Jean-Louis Debré s'était ces dernières années essayé à l'écriture de romans policiers et au théâtre, sans perdre son regard acéré sur la vie politique, ici en juin dernier, après la dissolution prononcée par Emmanuel Macron.
Quand on est démocrate et qu'on consulte le peuple, même si le peuple envoie une majorité qui n'est pas favorable, on suit ce que le peuple a dit.
Emmanuel Macron n'a pas agi en démocrate.
Il a agi en politique politicienne. Parce que je crois qu'il n'a pas entendu. Parce qu'il ne comprend pas. Parce qu'il ne veut pas accepter que sa politique, que ses gouvernements soient sanctionnés. Mais on est revenu à ce que la Ve République avait voulu faire disparaître, le régime des partis.
Jean-Louis Debré, lors de l'une de ses dernières interviews sur France 2, c'était en septembre dernier. Emmanuel Macron ne lui en tient pas rigueur, qui salue à l'instant un homme de droit et de droiture après sa disparition. Et c'est vrai que les hommages sont très nombreux et unanimes à l'Assemblée nationale de la part des députés que vous avez pu rencontrer ce matin, Timur Özturk.
À droite, Philippe Juvin, député LR, salue la mémoire d'un membre éminent de sa famille politique.
C'était un grand bonhomme. Il a su mener le Conseil constitutionnel en toute impartialité, dans un rôle d'arbitre dont nous avons absolument besoin dans les années à venir. C'est un message que j'envoie au nouveau président du Conseil constitutionnel.
Un grand président du Conseil constitutionnel veillant sur la constitution de la Ve, en partie écrite par son père. C'est aussi ce dont se rappelle François Hollande.
Il savait quel était le sens de l'intérêt général et il avait le respect toujours de ce que pouvait faire l'État et donc la loi, mais aussi de ce que la liberté représentait. Je sais qu'il restera, non pas comme le fils de Michel Debré, mais comme Jean-Louis Debré.
Chez les communistes, André Chassaigne regrette, lui, le président de l'Assemblée.
avec sa personnalité, qui était une personnalité qui nous impressionnait, mais que nous respections énormément. Et j'ajouterais qu'il avait de l'humour. Et j'ai la nostalgie de la présidence de Jean-Louis Debré.
Un hommage lui sera rendu dans l'hémicycle cet après-midi.
Timur Öztürk à l'Assemblée nationale pour Inter. Dans l'actualité politique également, la candidature du maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, pour prendre la tête du PS au prochain congrès prévu en juin. Il sera candidat face au premier secrétaire sortant, Olivier Faure. Il l'annonce ce matin.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
27 juin 2023 au matin, Nanterre, à l'ouest de Paris. Un policier à moto tire à bout portant sur un jeune homme lors d'un contrôle après une course-poursuite et plusieurs refus d'obtempérer. La mort du conducteur Naël Merzouk, 17 ans, va provoquer plusieurs nuits d'émeutes à travers le pays. Et on a appris ce matin, Charlotte Piret, que le parquet demandait un procès pour meurtre pour l'un des deux policiers. Vous avez pu consulter le réquisitoire définitif.
Oui, le parquet écarte la légitime défense invoquée par ce policier, père de famille de 40 ans, qui a assuré dès sa garde à vue qu'il en était ce jour-là à son 9e jour de travail consécutif et s'était senti menacé. J'étais un peu acculé, j'ai cru qu'il allait me renverser. Si j'ai tiré, c'est que je me suis senti en danger. Mais selon le parquet de Nanterre, si le comportement de Naël a bien été particulièrement dangereux et incontestablement mis en danger la vie d'autrui lors de la course-poursuite, ce n'était plus le cas au moment où le policier tire. Son véhicule alors bloqué dans le flot de circulation, détaille le parquet dans ses réquisitions en s'appuyant pour son raisonnement notamment sur la reconstitution des faits organisée il y a près d'un an et qui a conclu que Naël n'avait pas donné de coup de volant vers les policiers et que ce sentiment de danger des fonctionnaires était donc infondé. En conséquence, le recours à une arme à feu n'était pas absolument nécessaire selon le ministère public qui réclame donc un procès aux assises pour meurtre pour celui qui, ancien militaire entré dans la police en 2010, aurait dû conserver son sang-froid, toujours selon les termes du réquisitoire, qui écarte en revanche toute responsabilité pour le deuxième policier présent.
Charlotte Piret pour ces précisions. Là, c'est une affaire hors norme que pensent avoir résolu la brigade criminelle, les policiers de la brigade criminelle de Versailles. Nous sommes dans une petite commune de Seine-et-Marne, Saint-Loup-de-Nau. À 7 ans d'intervalle, 3 occupants d'une même maison sont morts dans 2 explosions différentes. Les 2 premiers de leur voiture, la troisième de son domicile. Eh bien, les enquêteurs ont la conviction qu'une femme et son fils, les proches voisins de cette maison, sont les auteurs de ces explosions. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
C'est vous qui nous révélez cette affaire. Les interpellations ont eu lieu ce matin.
Oui, ce sont des semaines d'analyse criminelle et d'expertise du laboratoire de la police judiciaire de Paris qui ont permis aux enquêteurs de la police judiciaire de Seine-et-Marne et de la brigade criminelle de Versailles de faire un lien entre ces 2 explosions mortelles qui ont frappé ce petit village de Seine-et-Marne à Saint-Loup-de-Nau en 2017, en mars, puis en novembre dernier. L'homme qui a été arrêté ce matin est bien soupçonné, selon nos informations, d'avoir confectionné 2 bombes à partir d'engrais mélangés à d'autres substances et d'avoir tué à 2 reprises, effectivement, l'ancien voisin mitoyen d'abord et son petit-fils âgé de 5 ans dans sa voiture alors qu'il quittait le village. Et puis donc, fin novembre dernier, une énorme explosion à 4 heures du matin, une maison pulvérisée, une femme de 31 ans retrouvée morte dans les décombres. Son mari a survécu mais grièvement blessé. Le suspect ainsi que sa mère, âgée d'une 60aine d'années, avaient déménagé de Saint-Loup-de-Nau quelques temps avant l'explosion de novembre dernier. Leur garde à vue peut se prolonger jusqu'à 96 heures en lien justement avec l'usage d'explosifs comme en matière de terrorisme.
Information signée Emmanuel Leclerc. Voilà des semaines qu'elle demande cette parole. Les victimes de violences physiques et sexuelles au sein de l'établissement catholique du Béarn, Notre-Dame de Béthune, à partir des années 50. Elles sont près de 150 à avoir déposé plainte ces dernières semaines. Et elles voulaient que cette congrégation reconnaisse sa responsabilité dans ces agressions. C'est chose faite depuis ce matin dans un entretien accordé à nos confrères de l'agence France Presse par le père Laurent Bachot, 75 ans, qui s'exprime au nom des prêtres. Il dit se sentir responsable face aux souffrances de ses enfants. Il annonce une commission d'enquête indépendante ainsi que des indemnisations pour les victimes des laïcs dans l'établissement. Éric Véron a été élève de 1979 à 1982 à Bétarame. Il a dénoncé des faits de viol de la part de l'ancien directeur, aujourd'hui décédé.
Je suis satisfait, je pense, à toutes les victimes qui ont été abusées par les civils et pas par des prêtres, qui vont être indemnisées, c'est vraiment une bonne chose. C'est une grande victoire quand même pour le collectif, je pense. Je suis satisfait, après je ne sais pas dans quelles circonstances ça va être fait, comment ça va être fait, quand ça va être fait. Mais déjà, ils ont pris une bonne décision et ils reconnaissent leur culpabilité là-dedans. C'est déjà une grande chose. c'est ce que j'attendais avec impatience, moi, c'est qu'enfin, vu tout ce qui se passait les jours derniers, j'attendais vraiment qu'ils prennent la parole, et ils l'ont fait. Quelque part, ils ont eu du courage.
Delphine Evenou, on vous retrouve, c'est vous qui avez recueilli ce témoignage. Notre-Dame de Bétharram reconnaît donc sa responsabilité pour la première fois. C'est quoi Notre-Dame de Bétharram? C'est une congrégation? Ce sont des religieux qui la dirigent?
Oui, la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus des Pères de Bétharram, c'est son nom complet, créé en 1832 à l'Estelle-Bétharram entre Pau et Lourdes, donc très présente un temps dans le sud-ouest de la France, beaucoup moins aujourd'hui. Les Pères de Bétharram sont surtout en activité en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, dans 13 pays au total. Cette congrégation, c'est un institut de vie consacré, une organisation de vie religieuse, de droit pontificale, c'est-à-dire approuvée par le Vatican, par un décret formel, et c'est une communauté comme toutes les communautés religieuses qui vit de façon assez autonome, mais il y a bien une hiérarchie, le dicaster pour les instituts de vie consacrés basé au Vatican, et qui a par exemple le pouvoir de déclencher une enquête canonique ou bien une visite apostolique, une sorte d'inspection si jamais des abus lui remontent. Le dicaster aurait pu lancer cet audit par exemple dans les années 90 quand le père Caricard, l'ancien directeur, a été mis en examen pour viol. Encore faut-il que les abus lui remontent jusqu'à Rome. Et puis pour être complète, l'évêque aussi a un devoir de vigilance, celui de Bayonne en l'occurrence, sur ce qu'il se passe dans son diocèse avec un droit de regard sur les œuvres scolaires, par exemple le catéchisme qui est enseigné, et il doit aussi signaler les abus dans les établissements scolaires catholiques.
Merci Delphine Evenou. Dans ce contexte, celui de l'affaire Bétharram, mais aussi du procès fleuve de Joël Le Squarnec en ce moment à Vannes, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Civise, remettait ce matin un rapport au gouvernement. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Elle demande également, cette Civise, à être prolongée.
Oui, parce que le rapport remis cet après-midi vise à définir l'après-Civise, comment transférer ses prérogatives. Après l'arrêt de sa mission prévue fin septembre, elle a débuté il y a un an dans l'agitation, une première direction contestée, débarquée. Elle a été perturbée par la dissolution, l'instabilité politique. Alors Solène Potvin-Favre, qui co-dirige la commission, demande un an de prolongation. Sinon, ce serait, dit-elle, renoncer à toute volonté politique de protéger les enfants.
Il y a un réel danger parce que la prévention de l'inceste, des violences sexuelles faites aux enfants, personne ne s'en est complètement accaparé. Les résistances, les dénis sont très massifs. Personne ne comprendrait la disparition d'une Civise dans 6 mois, alors que les violences sexuelles faites aux enfants sont dans l'actualité en permanence avec des dysfonctionnements des institutions sur ce sujet.
Pour la suite, le rapport cite plusieurs modèles, le comité interministériel du handicap ou la mission de lutte contre les drogues notamment. Il demande surtout d'adopter 16 propositions du rapport de la première Civise sur 82 qui ont été formulées, rendre notamment imprescriptibles les crimes sexuels sur mineurs ou créer une ordonnance de sûreté de l'enfant.
Imaginez-vous un enfant de 8-9 ans qui a le courage de parler contre son parent potentiellement agresseur. Un week-end sur deux, il va continuer de vivre chez son parent et subir des agressions. En tout cas, il nous semble absolument prioritaire que l'enfant puisse être mis à l'abri immédiatement lorsqu'il y a une suspicion d'inceste.
D'ici là, la commission demande davantage de moyens. Elle dispose de 4 fois moins de personnel rémunéré que la première Civise.
Rémi Brancato, le cinéma français se porte bien. Merci pour lui. Plus de 181 millions d'entrées en salle l'an dernier et des films français qui ont cartonné. Mais l'avenir restait flou. Canal+, son financeur traditionnel, allait-il prolonger vendredi soir? La question était dans toutes les têtes lors de la soirée des Césars. Eh bien, hier soir, le groupe Canal a annoncé un accord avec le cinéma français. 480 millions d'euros au minimum, investis jusqu'en 2027 inclus. En contrepartie, Canal pourra continuer de diffuser les films 6 mois seulement après leur sortie, Fanny Imbert.
Canal+ ne peut pas se passer du cinéma français et l'inverse est vrai aussi. L'enjeu pour le groupe, c'est surtout de conserver la précieuse fenêtre de diffusion des films 6 mois après leur sortie en salle, un atout majeur face aux plateformes de streaming. En échange, Canal s'engage à investir 480 millions d'euros minimum sur 3 ans dans le secteur. Même si c'est un montant en baisse par rapport aux années précédentes, le groupe reste le premier financeur du cinéma français, son premier diffuseur sur petit écran aussi. Une position qui avait été remise en question au début de l'année par l'offensive de Disney Plus France, qui avait négocié de pouvoir diffuser les films 9 mois après leur sortie, au lieu de 15. Un autre symbole, c'est aussi Disney qui diffusait les Oscars ce week-end, historiquement réservé à Canal. Il était donc temps pour le groupe de réaffirmer sa position de leader. L'accord précise aussi un soutien marqué aux films à petit budget et à la diversité des genres, de la comédie aux films à grand spectacle, en passant par l'animation.
Et pour le football, Maxime Saada, le président du directoire de Canal+, a expliqué ce matin que son groupe n'était pour le moment absolument pas intéressé par les droits de la Ligue 1. Nous parlions du cinéma, les costumes sont un incontournable du 7e art. Ça tombe bien, ce Mardi Gras, vous avez l'occasion de vous déguiser. La tradition remonte au Moyen-Âge, elle marque la fin de l'hiver avant le carême, demain un moment important pour les chrétiens. Cette tradition est-elle toujours en vigueur? Oui, dans les rues d'Auxerre, comme a pu le constater Anne-Gaëlle Yannomifa.
Dans le rayon carnaval d'une enseigne bien connue, Rachida recherche la pépite.
Cette année, notre thème, c'est fluo. Donc, on était en train de chercher des accessoires fluo avec ma fille. Elle a trouvé un beau chapeau fluo, mais c'est tout pour l'instant. On manque d'idées.
Sa fille Alia veut se déguiser en cowgirl, mais a du mal à trouver ce qui lui plaît.
J'essaie de trouver des petits accessoires, puisque j'aime pas trop me déguiser entièrement.
Et du coup, il y a quoi dans ton panier?
Il y a un chapeau rose de cow-boy avec des plumes. Puis pour le moment, on ne trouvait que ça pour le déguisement.
Un peu plus loin, Christelle, ancienne assistante maternelle, veut quelque chose de coloré et pailleté pour défiler.
On prépare un petit carnaval avec les assistantes maternelles, mais je vais aller les accompagner dans la galerie marchande de Géant Casino.
De son côté, le magasin n'a pas eu de mal à écouler ses stocks de déguisements. Océane Dacuna, la responsable.
Depuis vendredi dernier, donc le 28 jusqu'à aujourd'hui, il y avait moins 70% dans le rayon au carnaval. Donc c'est ce qui a fluctué les ventes. On a eu une bonne vente ce week-end.
Voilà quelques idées de déguisement suggérées par Ici Auxerre, 13h26 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure de ce 13-14, la météo d'Élodie Calac qui nous rejoint. Puis à partir de 13h30, toutes vos questions sur la relation entre Donald Trump, le président américain, et le maître du Kremlin, Vladimir Poutine. Rapprochement spectaculaire ces derniers jours, ces dernières semaines, mais anticipé par le journaliste Régis Janté dans son ouvrage « Notre homme à Washington ». Il est notre invité dans quelques instants. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton, deuxième épisode avec l'écrivain Joël Dicker qui nous emmène dans les coulisses de la sortie de son dernier roman qui sort aujourd'hui en librairie. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui?
Eh bien de Lamballe dans les Côtes d'Armor à Portée en Gironde en passant par Feur dans la Loire, mais aussi de Fil en Aiguille. On parlera de la folie du tricot, je vous le dirai tout à l'heure.
Oui, j'aimerais bien savoir où est Phil. Je sais où est Frédéric, en revanche, il est en face de moi, il va nous parler d'un metteur en scène.
Le franco-argentin Martial Di Fonzobo, qui signe la mise en scène de la pièce Dolorosa, à voir actuellement au Théâtre du Rond-Point à Paris. Et avec lui, nous écouterons la voix du portoricain Daniel Santos, sa version de la chanson Dos Gardenias para ti. Il aime énormément les gardenias, Martial Di Fonzobo.
Un air de Cuba dans ce 13-14, à tout de suite.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie, le danseur oriental. À Constantinople, Gulgul, jeune lutteur et calligraphe au palais du sultan, assiste à la fin de son monde. Entre mystères des maisons closes, trahison et amour pluriel, le danseur oriental raconte la fin d'un empire ottoman qui vit ses dernières heures. Le danseur oriental de Metin Arditi, un roman envoûtant aux éditions Grasset.
France Inter, partenaire de Mickey 17, le nouveau film de Bong Joon-ho, réalisateur de Parasite.
You're playing to be inexpendable.
Mickey Barnes a le pire job du monde. Employé jetable, il est envoyé pour mourir à notre place avant d'être réimprimé.
Every time I died, they just printed me out again.
Mais à la suite d'une erreur, il doit cohabiter avec Mickey 18, version insupportable de lui-même.
I don't like you, but I'm you.
Mickey 17, avec Robert Pattinson, Mark Ruffalo et Toni Collette, au cinéma le 5 mars. Un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une journée souvent ensoleillée.
Oui, de la Bretagne vers le bassin parisien et le nord de la Seine et sur la moitié est, c'est souvent du soleil. Alors un petit peu tamisé par des nuages d'altitude. Le soleil est plus voilé au sud de la Loire. Les nuages sont assez denses de l'Aquitaine vers la Vendée. Une ondée n'est pas exclue près de la côte. Sur les Pyrénées, là, des nuages beaucoup plus nombreux avec eux quelques averses. De la neige vers 1800 mètres. Et puis sur l'ouest du Languedoc-Roussillon, le vent de sud-est apporte pas mal de nuages. Il peut souffler jusqu'à 60 km à l'heure dans le domaine de l'OTAN. Les températures sont douces, souvent 2 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison. Comptez 10 à 16 degrés au nord, 14 à Rennes, Paris ou Dijon, 15 à 19 degrés en allant vers le sud, 18 à Limoges ou Marseille, jusqu'à 19 à Montauban. Demain, journée très ensoleillée après les brouillards du matin. Encore dégelé au nord le matin, mais de la douceur l'après-midi. Il fera 17 degrés à Paris, Lyon et La Rochelle.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Régis Janté.
Bonjour à vous.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes journaliste, correspondant pour Radio France Internationale depuis près de 20 ans maintenant en Géorgie, au sud de la Russie. Vous connaissez parfaitement l'ancien espace soviétique et la Russie. Et vous vous trouvez d'ailleurs en ce moment en Ouzbékistan pour un reportage avant la visite du président ouzbek qui sera en France la semaine prochaine. Vous avez publié à l'automne dernier, Régis Janté, un livre intitulé « Notre homme à Washington, Trump dans la main des Russes ». C'est aux éditions Grasset et c'est un livre dans lequel vous détaillez les liens entre l'Union soviétique et le jeune Trump, puis la Russie, avec le Trump devenu milliardaire puis président. Et cela éclaire évidemment ce qui se passe depuis la prise de fonction de Donald Trump comme président des États-Unis. Ça éclaire aussi ce qui s'est passé ces dernières heures et l'annonce de la suspension de cette aide militaire à l'Ukraine. Voilà pourquoi nous vous avons invité, 01 45 24 7000 pour les questions des auditeurs. Vous passez également, si vous voulez être avec nous, par l'application France Inter. Régis Janté, vous avez écrit, je l'ai dit, cette enquête il y a plusieurs mois. C'était avant l'élection de Trump et on a pourtant l'impression que vous l'avez écrit ce matin. Ça veut dire que tout était annoncé en quelque sorte?
Oh, l'histoire n'est jamais annoncée. Cela dit, lorsqu'on regarde très précisément quelle a été cette histoire, en l'occurrence, c'est l'histoire de 40 ans à peu près de liens entre Monsieur Trump et l'Union soviétique, puis la Russie. Lorsqu'on analyse un peu scrupuleusement ce qu'il a pu dire et faire, on comprend qu'effectivement, j'ai pu écrire sans être un génie que en octobre, enfin c'était écrit d'ailleurs bien avant, bien sûr, c'était avant l'été, et bien que s'il devait y avoir un accord de paix en quelque sorte ou un deal, comme dit M. Trump, à propos de la guerre en Ukraine, il se ferait très certainement à la faveur de la Russie. Et c'est ce qu'on observe ces derniers jours.
Est-ce à dire que rien ne vous surprend depuis la prise de fonction de Trump ?
Non, vraiment pas. Et je crois que les gens qui suivent cette affaire de près ne sont pas surpris. On est toujours surpris par le style et c'est ce qui se passe le vendredi dans le bureau du bureau ovale. Là, bon, le style et la mise en scène est assez incroyable, elle est inédite. Mais sinon, non, c'est ce qu'on attendait. Enfin, on était presque surpris de voir que c'était aussi parfaitement en phase avec ce qu'on pouvait attendre de cette affaire. Cela dit, depuis un mois notamment, et à vrai dire avant, mais depuis un mois, Monsieur Trump explique que Zelensky est un dictateur, ce qui évidemment sans rapport avec la réalité. Il explique que c'est lui qui a commencé la guerre en Ukraine, c'est aussi sans rapport avec la réalité. Et pour avoir suivi l'élection de Zelensky en 2019, il était clair qu'il avait été élu sur un mandat pour négocier justement la paix avec M. Poutine, et tout est à l'avenant. Donc on sentait que le terrain était préparé, et ce qu'on observe ébahit certes, mais lorsque Zelensky est dans le bureau ovale, eh bien c'est une mise en scène qui doit aboutir à la conclusion, enfin qui sert à préparer l'opinion américaine à l'abandon des Ukrainiens dans cette guerre.
De très nombreuses questions pour vous, Régis Janté. Je voudrais qu'on accueille Sophie. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez Nouvelle-Aquitaine, c'est ça?
Oui, exactement. Et je suis absolument enchantée que cette question soit mise sur votre antenne, parce que j'ai habité aux États-Unis presque 30 ans. Je suis Trump depuis sa première élection. J'ai lu le bouquin passionnant sur cette élection qui s'appelait Russian Roulette, qui parle de l'influence russe de cette élection. Et j'ai aussi lu tous les rapports de l'ancien KGB, de l'ancien major du KGB, Yuri Shvets, qui a fait ses déclarations, en fait, que Trump travaille pour le KGB depuis 1987.
Le KGB soviétique, hein, pour être tout à fait précis.
Oui, soviétique, exactement. Mm-hmm. Que c'est ils appellent ça un asset, un Russian asset, un actif. Ce qui explique exactement tous les comportements de Trump. Mmh. Et c'est le KGB, en utilisant de la flatterie, qui l'ont persuadé de se lancer en politique.
Donc, on va faire réagir.
Donc j'aimerais avoir la réaction de votre auditeur.
Merci Sophie. Régis Janté, Donald Trump, agent, je reprends à dessein le mot, agent soviétique depuis 1987. Qu'en est-il ?
Alors, madame, Sophie a vraiment raison et on voit que c'est quelqu'un qui a suivi très très près parce que pour écouter les vidéos de Yuri Shvets, que je cite dans mon livre aussi, qui est quelqu'un qui était résident au KGB à Washington dans les années 1980. Donc voilà, c'est quelqu'un qui connaît, même s'il n'avait pas accès
directement. Donc le KGB, c'est les services secrets soviétiques, Régis Janté.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais alors, sur le terme agent, c'est un tout petit peu technique, mais ce n'est pas un agent en tant que tel. Un agent, c'est quelqu'un que vous recrutez, il sait qu'il est recruté et pour ça, on le paye à chaque fois qu'il vous donne une information, un renseignement ou qui fait un travail d'influence. En l'occurrence, ce que me disent moi, mes interlocuteurs dans le renseignement américain, c'est que c'était ce qu'on appelle un contact confidentiel, ça c'est du jargon soviétique, du KGB justement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas forcément exactement pourquoi il est cultivé, mais on le cultive, c'est-à-dire qu'on lui fait rencontrer des gens, on fait circuler de l'argent à travers ses affaires, on l'aide à des moments cruciaux, et c'est exactement ce qui s'est passé avec M. Trump, avec un premier voyage qui va l'emmener en juillet 1987 à Moscou, et on sait comment a été organisé ce voyage, et c'est purement une opération montée par le KGB. Et ensuite, il y a tout un tas de gens, on ne peut pas prouver exactement quelle est la nature du lien, mais des gens très curieux, souvent très, très proches des services de sécurité russes, mais qui peuvent venir de la mafia, qui peuvent venir des affaires, qui peuvent venir de la diplomatie, et qui vont en permanence le cultiver, mettre de l'argent, blanchir de l'argent dans ses casinos, investir dans ses projets immobiliers, lui racheter avec une énorme plus-value une villa en 2008, l'année de la crise financière, etc. etc. Et effectivement, c'est là qu'on a un faisceau d'indices, on n'a pas de preuves parce que les services secrets, c'est secret, mais on a vraiment un énorme faisceau d'indices qui conduit à dire que sans doute que M. Trump va agir en faveur de la Russie et c'est ce qu'on voit en effet.
Qu'est-ce qui vous permet de dire ça, contact confidentiel, Régis Janté ? Vous avez eu accès à des rapports, vous avez pu vous entretenir avec certaines sources, vous qui connaissez parfaitement bien le monde soviétique et russe. Quelles sont vos sources, sans trop rentrer dans le détail évidemment, mais pour crédibiliser votre enquête ?
Les sources, en l'occurrence, viennent des États-Unis avec des gens de la communauté du renseignement, donc des officiers. Vous savez, il y a une quinzaine d'agences de renseignement aux États-Unis, uh-huh. et j'en ai deux ou trois qui ont eu, alors, qui n'ont pas toujours eu accès au dossier, mais en tout cas, qui ont travaillé sur la Russie pendant 30 ans, donc ont eu des éléments petit à petit, et qui rentrent parfaitement avec ce qu'on appelle. Donc, eux me disent que, par exemple, c'est leur source du KGB qui parle de contacts confidentiels, qui est effectivement un vocabulaire tout à fait du jargon habituel, et on a des documents par exemple du chef du KGB dans les années 80, juste avant la perestroïka, dans ces années-là, et où ils montrent leur stratégie pour recruter, pour améliorer le recrutement aux États-Unis, et on parle effectivement de contacts confidentiels, notamment parmi les scientifiques, parmi les hommes d'affaires comme M. Trump, parmi les politiques, etc. Donc on est plus on n'est pas dans la preuve, bien sûr, sauf qu'on est dans un flot, et le sujet est tellement important qu'il est important pour moi, il était important de rassembler tous les éléments qui nous approchent au plus proche de la preuve pour dire qu'éventuellement, c'est ça qui va expliquer tel et tel comportement de M. Trump. Encore une fois, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire que c'est un agent, mais on peut dire que tous les éléments nous amènent à ne pas exclure cette hypothèse et il vaut mieux l'anticiper compte tenu de l'importance des enjeux.
Et que fait Donald Trump ? Il renvoie l'ascenseur en ce moment ?
Alors, là où c'est plus compliqué encore, il y a une dose de complexité à ajouter, vous avez raison, c'est que, bon, il est sans doute tenu, donc peut-être qu'il renvoie parfois l'ascenseur, mais qu'est-ce qui fait aussi qu'il a été accepté de se laisser prendre en quelque sorte au piège ? C'est aussi que son propre ADN politique à lui, indépendamment des Russes, ce qu'il est par sa culture, par son éducation, fait qu'aussi c'est quelqu'un qui est plutôt compatible avec la Russie. Évidemment, il est aux antipodes d'un Poutine, ce sont deux hommes très différents, mais le peu de goût qu'ils peuvent avoir pour la démocratie, la considération que la force doit être au cœur des enjeux et au cœur de la politique internationale, que les grandes puissances ont droit d'avoir des sphères d'influence autour d'elles, ça, il y a une vraie entente là-dessus, et ça, c'est vraiment très important. Et c'est ça qui parle en ce moment aussi, d'abord, peut-être.
Question de Daniel sur l'application France Inter. Ne serait-ce pas grâce à Poutine que Trump a été élu ? Trump est peut-être redevable de Poutine, Régis Janté.
Alors, pour l'élection, non. Enfin, en tout cas, on ne peut pas le prouver et c'est probable que non. Ce sont les Américains qui l'ont élu, les deux fois d'ailleurs. En revanche, les Russes ont effectivement énormément travaillé pour l'aider. ça lui a rapporté des voix, ça c'est certain, mais de là à dire que ça l'a fait gagner, personne ne peut affirmer cela.
Et en même temps, la décision de la nuit dernière de suspendre l'aide à l'Ukraine s'inscrit dans un mouvement qui remonte à plus d'une dizaine d'années, vous le racontez d'ailleurs très bien dans le livre, d'isolationnisme américain que Barack Obama a engagé. Donc dans quelle mesure est-ce qu'il y a un tournant de la part de Donald Trump vis-à-vis des Russes ?
Oui, et c'est là que j'insistais sur son ADN politique et qui est très en phase avec l'ADN politique américain. Disons, l'isolationnisme, c'est effectivement pas simplement M. Trump, c'est pas simplement le camp républicain, et c'est une vraie tendance lourde, presque génétique, on pourrait dire, des États-Unis, qu'on retrouve chez M. Obama et chez bien d'autres, quoi. Donc ça, c'est effectivement dans le style, et c'est quand même dans le fait de mettre à l'écart le droit international dans sa gestion de grands dossiers comme cela, et de ne rien demander même à la Russie, par exemple. Rien n'est exigé de la Russie dans cette affaire, au point que M. Trump en est gêné et que hier soir, dans l'interview, dans la conférence de presse qu'il donne, il est obligé de se justifier en disant « Non, je n'ai pas fait de cadeau ». Mais il n'a rien donné du tout. Et ça, c'est évidemment… Alors qu'il pourrait, parce que la Russie n'est pas non plus… Il ne faut pas croire qu'elle est en très bonne position sur le front. Quand on lit, comme je le fais tous les jours, des blogueurs Z, des spécialistes militaires russes, on voit très bien qu'ils ont un énorme problème à mobiliser, que à cette allure, il faudrait des années et des années pour conquérir la moitié de l'Ukraine. Donc les États-Unis, avec la puissance qu'ils ont, seraient en mesure d'exiger une négociation qui soit pour le fait que nous ayons une vraie paix, c'est-à-dire que l'Ukraine y trouve certaines satisfactions en faisant des concessions et que la Russie fasse des concessions tout en trouvant des satisfactions. Mais là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure.
Je fais une parenthèse avant d'accueillir Francis. Beaucoup d'analystes disent si la guerre continue et si elle dure, ce sera à la défaveur de l'Ukraine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Régis Janté ?
Oui, dans l'état actuel des choses, certainement. Ensuite, l'Ukraine s'est battue, a pu résister, bien sûr, par le courage et par la volonté de ce peuple, mais aussi, bien sûr, par les armements que l'Occident a donnés. Et ça, c'est pas Trump, c'est aussi Biden, sous Biden, qu'on n'a pas toujours donné le maximum. On a eu
mais est-ce que les Russes pourraient supporter une guerre longue et qui durerait encore plusieurs années ?
Justement, on est à un moment très particulier. Ce que disent les gens, par exemple, qui suivent l'économie de la Russie, disent que dans un an, par exemple, ça sera très difficile. Donc, si on voulait obtenir une paix qui soit plus juste, qui soit négociée, où chaque partie fasse des concessions et trouve des satisfactions, c'est ça une paix. On se dit que peut-être qu'il faudrait la faire durer encore un an. En tout cas, mettre la pression, faire entendre aux Russes qu'on n'est pas prêt de lâcher l'Ukraine en ce moment, et peut-être qu'on obtiendrait quelque chose. Ce n'est pas du tout cela que M. Trump fait. Son plan de paix, en fait, c'est simplement de ne pas donner d'armes à l'Ukraine. Et c'est à ça que sert toute la mise en scène de vendredi dernier dans le bureau ovale, pour ensuite laisser l'Ukraine complètement exposée à la Russie.
Francis nous appelle du département du Nord. Bonjour Francis.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Depuis Yalta, en fait, on assiste toujours au même partage du monde avec l'émergence d'une puissance considérable qui est la Chine, et pourquoi pas l'Inde demain. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Europe devrait enfin constituer un gouvernement de telle manière à ce qu'on puisse effectivement représenter une force de véritable dissuasion ?
Merci Francis pour cette question. Régis Janté, là on est sur l'analyse...
Sur la question européenne.
Oui, la question européenne.
Non, bien sûr, effectivement, l'Europe, c'est la zone du monde la plus riche, quoi. Donc potentiellement la plus puissante. Et évidemment que finalement, pour défendre sans doute la souveraineté de chacun des États de l'Europe, il faudrait pouvoir aussi avoir une souveraineté européenne qui est capable de se défendre à travers la défense et sur des prises de position politiques. Mais ça, les États européens ne le veulent pas aujourd'hui. Mais effectivement, on aurait tout pour devenir la première puissance du monde, à vrai dire.
Quels sont les intérêts, au fond, de Donald Trump ? Est-ce qu'il y a, qu'en est-il de la conviction, de l'idéologie et puis du pragmatisme, des affaires ? C'est la question d'Anne sur l'application France Inter. Pourquoi Trump abandonne-t-il l'Ukraine en race campagne ? Parce qu'il est plus simple de partager le gâteau des minerais avec les Russes ? Parce que Trump a fait un deal avec Poutine ?
Moi, personnellement, j'ai tendance à penser que l'argument économique qui existe chez Trump, parce que c'est quelqu'un qui pense comme un boutiquier, certains disent, mais tout de même, je pense que souvent, l'argument économique sert à cacher la réalité des intérêts idéologiques ou des compromissions. Et vous savez, par exemple, on le voit sur la Russie, parce que les relations économiques, même avant la guerre, c'est-à-dire en 2013, par exemple, entre les États-Unis et la Russie, sont dérisoires. C'est 38 milliards pour des pays comme ça. C'est vraiment une goutte d'eau dans la mer, quoi. Donc, donc là, il y a autre chose qui se joue. Il se joue des choses immédiates pour M. Trump, je pense, qui est de l'ordre de dire « Regardez, comme je suis génial, je suis capable de faire un deal. » Et c'est ce qu'il a voulu obtenir de M. Zelensky en lui demandant une capitulation, ce qu'il a refusé pour le moment. D'un autre côté, il y a certainement aussi cette vision du monde de M. Trump, qui est de ne jurer que par les grands États et de considérer cela comme les petits États, comme ne devant pas avoir voix au chapitre. Et ça, c'est une vieille histoire. J'ai exhumé un épisode de la vie de M. Trump en 1984 qui n'a rien à voir avec la Russie. En deux mots, il veut s'improviser comme le négociateur en chef du désarmement nucléaire pour l'administration Reagan. Un journaliste lui dit « Comment vous allez faire ?» Et en gros, il dit « Nous, les Américains et les Soviétiques, on va garder notre armement, on va le réduire de manière concertée. Et puis, en revanche, les petits États comme la France ou le Pakistan, eh bien, on leur mettra la pression pour qu'ils abandonnent leurs armes nucléaires. » Et là, on avait toute la vision de Trump.
84.
En fait. 84.
Ouais. Donc, fort avec les faibles, faible avec les forts.
Oui, c'est ça. Ouais. On peut vraiment dire ça, encore une fois, vis-à-vis de M. Poutine. Je crois qu'il y a une autre dimension très importante.
Très, très
là,
vite.
C'est plus mon opinion, mais c'est que M. Trump veut changer la nature du régime américain, et pour ça, il a besoin d'avoir une forme de légitimation par d'autres États puissants, et c'est aussi ce qu'il cherche en faisant ce cadeau à M. Poutine et à d'autres États.
On verra s'il fait des pas de plus ce soir dans son discours la nuit prochaine sur l'état de l'Union. Merci infiniment Régis Janté d'avoir été en ligne avec nous, de répondre aux très nombreuses questions des auditeurs du 13-14. Aujourd'hui, je renvoie à votre livre Enquête chez Grasset, Notre homme à Washington, Trump dans la main des Russes. 13h45 sur Inter. Notre feuilleton cette semaine avec l'écrivain suisse Joël Dicker. C'est l'un des plus gros vendeurs en langue française et il publie aujourd'hui son dernier roman, La très catastrophique visite du zoo. Alors nous le suivons toute cette semaine dans la promotion de ce livre et aujourd'hui nous sommes à Genève dans les locaux de sa maison d'édition Rosie et Wolf avec son bras droit Olivia Eleni.
Donc là, le livre sort d'abord en francophonie, ce qui représente pour nous quatre pays, la Suisse, le Canada avec le Québec, la France évidemment, la Belgique. Il sort simultanément en italien et en espagnol, donc il faut aussi faire la promotion en même temps. Et simultanément sort en Allemagne le précédent roman Un animal sauvage. Tout ça dans le même laps de temps.
Vous allez faire une tournée dans tous ces pays ?
Absolument.
Je m'appelle Olivia Eleni, je travaille avec Joël depuis 5 ans. Il m'appelle sa directrice commerciale, je m'occupe un petit peu de tout l'opérationnel. Donc c'est un peu moi qui centralise toutes les demandes, les invitations, les propositions, les contrats. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai des to-do list de partout.
C'est la catastrophe.
C'est la catastrophe. Des salades, du hummus, un peu de pain. Et on va profiter de votre présence pour déjeuner ensemble.
Ça fonctionne en général assez bien, grâce à Olivia, qui va maintenant me rappeler à l'ordre sur tout ce que j'ai oublié de faire ou pas encore fait.
J'aimerais déjà pouvoir confirmer la tournée italienne avec toi, voir si c'est OK pour toi de partir le dimanche. Oui. Est-ce que tu veux attendre de voir si tu as la télé le soir pour voir à quelle heure tu pars ?
Je dirais prenons un train vers 15-16 heures et puis on changera s'il faut le changer.
Donc ensuite, le 17 à Milan, la rencontre libraire à 17 heures chez Mondadori comme d'habitude. Mardi 18 de Milan, tu vas à Rome.
Oui.
Mercredi 19, Rome. Et de là, je te prends le vol pour la Belgique. J'adore mon travail parce qu'il est très varié. On fait énormément de choses. Et chaque jour, on a un patron qui passe la porte avec, en général, une nouvelle idée.
Et il n'est pas trop casse-pied comme patron ?
Alors, vraiment pas. Je dois vous dire qu'en 5 ans, je ne l'ai jamais vu même perdre le contrôle ou hausser la voix.
Là, vous faites quoi ? Vous faites des dédicaces ?
On a quelques dédicaces. On a commandé 2600 livres à employer.
Sauf 2600 services de presse ?
Oui.
C'est énorme.
Et l'ascenseur est tombé en panne, comme vous avez pu le voir, puisque vous êtes venu ici, vous avez dû monter à pied ces 5 étages. Et donc, 2600 livres, ça fait une tonne et demie de livres à peu près. Et on est au 5e étage sans ascenseur, donc on a dû envoyer tous les livres chez moi, pour la plus grande joie de toute la famille. Et donc, j'ai fait l'essentiel du service de presse depuis mon salon, où il y avait 2600 exemplaires de mon livre au milieu de mon salon.
Ça vous a surprise que Joël se lance dans un livre pour la jeunesse ? Alors, il n'aime pas que je dise pour la jeunesse, parce qu'il dit c'est pour tout le monde.
Moi, j'avoue que je trouve qu'il a raison, que c'est vraiment un livre pour tout le monde. J'ai eu tellement de plaisir à le lire, surtout ma petite, qui a 9 ans et qui est une enfant spéciale. Elle a des troubles de dyslexie. Pour elle, la lecture, c'est très difficile. Et la plus belle chose, c'est que quand on a refermé le livre, elle m'a regardée et elle m'a dit « Maman, Je pense qu'on est tous des enfants spéciaux. J'ai vraiment compris que dans la vie de ma fille, il y a eu un avant et un après la lecture de la très catastrophique visite du zoo. J'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens, tellement ça m'a touchée de la voir avec cette hâte d'aller se coucher, hâte du moment lecture, hâte de découvrir le prochain chapitre. Et encore un petit peu, maman, encore un petit peu, encore un peu. Oh. Et ça, pour une maman, vivre ces scènes-là avec son enfant, c'est vraiment... ça n'a pas de prix. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans le cas de ma fille et j'espère qu'ils auront ce texte entre les mains et qu'ils pourront découvrir la lecture grâce à ce texte et s'ouvrir à d'autres lectures.
Une semaine dans la vie de l'écrivain Joël Dicker avec Ilana Mor-Youssef. La suite demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le mardi à 13h50. Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires d'aiguilles, de fils et de pelotes.
Et je vous emmène, Jérôme, à Lamballe, Côte d'Armor, pour une soirée un peu spéciale prévue mardi prochain. Son nom, Popcorn et Tricot. Venez crocheter, broder ou tricoter devant un film au cinéma Le Penthièvre. Voilà ce que propose Anne-Laure Asquette, la gérante de la boutique Merci Mercerie, qui organise par ailleurs des ateliers comme le piqué-coup pour les enfants ou le tricoté pour déguster une boisson chaude. Exactement, pour déguster une boisson chaude aiguilles en main. Le concept existe à Paris avec des soirées ciné-maille au studio des Ursulines. Dans Ouest France, la trentenaire bretonne précise l'idée: tricoter comme chez nous devant la télé, mais là, on sera ensemble. Alors, précision importante, Jérôme, la salle de cinéma ne sera pas complètement obscure.
Ah oui, c'est la question qu'on se posait ce matin.
Exactement, elle sera tamisée. Comme ça, on pourra tricoter sans perdre une maille, sourit Anne-Laure Asquette. Mieux vaut, en tout cas, éviter les films violents qui font sursauter. Peu de risques mardi, on tricotera devant la romance. Bridget Jones, folle de lui.
Ouais, j'avais pas pensé à ça. Cet engouement pour le tricot, Cyril, n'est pas nouveau, mais il touche désormais un autre public.
Oui, elle est bien loin, l'image d'une activité réservée à nos grands-mères, les pratiquantes, et quelques encore rares pratiquants sont de plus en plus jeunes. Le tricot plaît beaucoup aux 25-30 ans, constate notre mercière bretonne. Même frémissement chez des mamans, rapporté au centre socioculturel de Châtillon-sur-Thouet dans les Deux-Sèvres, où une dizaine de mordus se réunissent chaque semaine. On tricote et on papote, c'est joliment dit. Car TikTok, Instagram ou Pinterest ont mis les loisirs créatifs à la mode. À l'analyse du sociologue Ronan Chastelier, auteur d'essais sur la frugalité contemporaine et le retour aux valeurs simples, depuis une dizaine d'années, des activités vues comme passéistes se sont modernisées. C'est une zone de refuge pour la jeune génération dans un monde où tout va très vite, où l'on est confronté à l'IA et l'industrialisation de la société. Créer avec ses mains est un moyen de résister. On parle là, Jérôme, de couture, de crochet, mais aussi de puzzle ou de poterie. Florilège de témoignages de jeunes accros dans Ouest France. C'est un moyen de décompresser, de déconnecter des écrans. Faire un geste répétitif, ça vide la tête. C'est une façon de se raccrocher à des choses plus simples de la vie. Autre raison citée, le tricot réduit le stress, constitue un geste écologique et économique contre la fast fashion ou encore rapproche les gens.
Et oui, le tricot, ça tisse aussi des liens.
Et ce week-end à Portée, près de Bordeaux, Jérôme, a été organisé le premier festival du tricot avec des allées noires de monde à constater ici Gironde. À Chaligny, en Meurthe-et-Moselle, la commune vient de lancer des cafés crochets. À Feur, dans la Loire, un salon de thé tricot vient d'ouvrir rue Mercière, ça ne s'invente pas. À Guipava, dans le Finistère, chaque vendredi, une classe de CM2 manie des mailles avec des mamies. Objectif de la maîtresse, améliorer la concentration des enfants, faire travailler leur dextérité et transmettre des savoir-faire. Et puis, dernier exemple, le tricot urbain qui se développe. Avant le passage du Tour de France, des habitants de Vire, dans le Calvados, apprennent à tricoter pour décorer des vélos qui accueilleront les coureurs dans la ville.
Et puisqu'on parle vélo, le tricot, c'est aussi du sport.
Eh bien oui, avec un séisme, Jérôme, dans le monde du tricot qui s'est produit lors du dernier championnat de France de vitesse en décembre à Paris. 9 fois championne, invaincue depuis 2013, la bretonne de Trébédan, Catherine Bouénard, 54 ans, qui est aussi correspondante locale de Ouest France, a été battue par sa rivale, la francilienne Isabelle Stiger.
Score final après 3 minutes, 238 mailles contre 230.
Je ne donne même pas votre résultat ni votre classement, tellement c'est indécent, Cyril Petit, à cette compétition. Je ne vous félicite pas de C'est la France. Merci Cyril. Ah, c'est une chanson, c'est l'acteur et metteur en scène franco-argentin Martial Di Fonzobo que vous recevez aujourd'hui, Frédéric Pommier.
Il signe la mise en scène de la pièce Dolorosa, 3 anniversaires ratés, présentée à partir de demain au Théâtre du Rond-Point à Paris. Et c'est un standard de la musique latine qu'il a souhaité que l'on écoute, Dos Gardenias para ti, deux gardenias pour toi, dans la version du portoricain Daniel Santos.
C'est une chanson comme ça qui fait partie du bagage, qui est toujours là, on va dire. Et elle est importante parce que il n'y a pas un souvenir précis qui serait lié à cette chanson, mais il y en a énormément. À commencer par la fleur elle-même. En fait, les gardenias, ce sont des fleurs odorantes extraordinaires qui envahissent la ville de Buenos Aires où je suis né entre septembre et janvier. Donc la ville entière sent la gardenia, puisque c'est des marchands de fleurs qui sont dans la rue. Les fleurs sont vendues dans la rue. Et donc, voilà, on traverse les rues et on sent ces gardenias. Et c'est des bouquets de 20-30 petites fleurs blanches entourées d'un feuillage gras, vert foncé. Et ça sent très très bon.
Ça veut dire que ce parfum-là, pour vous, c'est vraiment le parfum de votre enfance ?
Exactement, c'est l'été, c'est Noël, c'est l'enfance, c'est les rois mages, c'est les feux d'artifice. Et je vous parle et je sens cette odeur.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán.
Cette chanson, Frédéric, c'est une chanson d'amour.
Mais oui, c'est l'histoire d'un homme qui offre à une femme deux gardenias parce qu'ils sont ton cœur et le mien et parce qu'ils ont toute la chaleur d'un baiser, lui dit-il. Et c'est grâce à l'une de ses tantes, à Buenos Aires, que Martial Di Fonzobo a découvert cette chanson.
C'est la seule dans la famille qui avait un tourne-disque. Et on avait ce disque-là, je me rappelle très très bien de la pochette. Et j'aimais beaucoup aller chez elle et mettre ce disque-là.
Elle s'appelait comment, cette tante ?
Anna. Et ma tante, c'était quelqu'un qui avait un parcours assez incroyable. Elle était fille d'Italien, mon nom est italien. Son père lui avait interdit de faire des études supérieures. Et donc, à la mort du nonno, elle s'est vengée de la vie, elle est devenue architecte. Et elle s'est jamais mariée. Ma mère était partie, donc elle s'est occupée de nous. Donc en fait, elle travaillait toute la journée, puis le soir, elle s'occupait de nous. Donc j'ai toujours eu une admiration incroyable pour cette femme, et elle faisait des dessins d'architecture. Et j'étais fasciné par son écriture, parce qu'elle écrivait tout en capital. Et si je vous montre la mienne...
Capital aussi ?
Oui, ça vient de là.
Como cuando estás conmigo. Y hasta creerás...
Vous avez quitté l'Argentine à quel âge ?
À 18 ans.
Pour vivre une autre vie ?
Oui. J'ai grandi sous le régime militaire, en emmagasinant comme ça une grande colère, parce que c'était très difficile d'être dans les rues. On se faisait arrêter parce qu'on fréquentait des garçons. Donc je suis parti à 18 ans en disant plus jamais je reviendrai. Et je suis revenu, mais bien des années plus tard.
Et vous êtes parti parce que, en Argentine, c'était impossible de vivre ouvertement son homosexualité ?
Son homosexualité, c'était impossible de faire du théâtre, j'aime pas le foot, enfin bon bref, il y a plein de raisons extrêmement importantes.
Vous avez offert, vous, des gardenias déjà ?
J'ai beaucoup de gardenias dans mon jardin. Et j'en offre tout le temps, oui, oui, oui. Je vous avoue que la dernière fois que j'étais en Argentine, je suis revenu en mettant des gardenias dans ma valise. J'ai trouvé un moyen de les mettre entourés du papier journal humide dans des petits sacs en plastique. Et maintenant, je fais du trafic des gardenias.
Vous nous révélez un trafic aujourd'hui.
Trafic de gardenia.
Daniel Santos, Dos Gardenias para ti. C'était donc le choix de Martial Di Fonsobo.
Auquel on doit la mise en scène du spectacle Dolorosa, à voir jusqu'au 15 mars au Théâtre du Rond-Point à Paris.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Hablas bien espagnol. Oh. Jérôme, bien, bien.
Quoi est-ce le programma?
Eh bien, le programma, ce sera l'antibiorésistance dans un instant.
Muy bien, à tout de suite.
Gracias.